Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mercredi 23 avril, bonsoir à tous. C'est parti pour la session soirée de l'info sur RFI. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Voici les temps forts des 3 heures à venir. Avec Accent d'Europe dans 10 minutes qui sera en Turquie ce soir, où les autorités préparent une nouvelle loi pour renforcer un peu plus la répression des LGBT. Reportage également à suivre en Autriche pour parler du retour du loup. Juste après, le débat du jour évoquera ce soir le nucléaire iranien, car Téhéran et Washington se parlent, alors certes indirectement, depuis plusieurs semaines, deux rounds de discussion qui se sont déjà tenues. Le prochain est prévu samedi. Un accord est-il possible? Voilà la question que nous poserons. Que signifierait un accord? Qui a intérêt à y parvenir? Et puis quel accord est possible? Réponse à suivre, ça ce sera dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, avec Christophe Paget, le dossier qui nous emmènera ce soir en RDC pour évoquer les négociations entre la présidence angolaise et l'AFC M23, négociations qui se déroulent à Doha, au Qatar. Il en sera évidemment question une demi-heure plus tard, 18h30 TU, la première édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. 19h10 TU, le décryptage, qui sera consacré ce soir à la prostitution des mineurs, un fléau qui est en pleine progression en France. À suivre Sébastien Farcy et ses invités. Et puis le grand reportage, ça ce sera à 19h30, temps universel. L'armée de terre française à l'heure de la guerre totale. Ce sera avec Franck Alexandre. Voilà pour le programme. Et pour l'heure, 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, c'est le journal d'Alban Le Prince. Bonsoir Alban.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, un appel rare et solennel.
Celui de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Il s'est adressé aujourd'hui au Hamas, alors que de nouveaux bombardements ont fait 36 morts aujourd'hui à Gaza. Des corps calcinés, ensevelis sous les décombres selon les secouristes, et notamment des familles qui se trouvaient dans une école et un hôpital pour enfants de Gazaville. Bonsoir Yelena Tomic.
Bonsoir Alban.
Yelena, c'est depuis Ramallah en Cisjordanie occupée que Mahmoud Abbas a demandé au mouvement palestinien de lui remettre les armes et libérer les otages du 7 octobre 2023.
Et oui Alban, l'offensive israélienne continue de faire chaque jour des victimes dans la bande de Gaza et le Hamas retient 59 otages israéliens dont 24 seraient toujours vivants selon les autorités israéliennes. Et le président de l'autorité palestinienne a lancé aujourd'hui devant le conseil central de l'Organisation de Libération de la Palestine à Ramallah, un appel au Hamas, il est sans équivoque. Oui, il y a un petit souci, on va traduire. Donc le Hamas a fourni à l'occupation criminelle des prétextes pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza, le plus flagrant étant la détention d'otages. Pourquoi les a-t-on pris en otage, a déclaré Mahmoud Abbas. C'est moi qui en paie le prix, notre peuple en paie le prix, pas Israël. Vous avez vu combien a augmenté le nombre de Palestiniens tués depuis 2007, nous en payons le prix chaque jour, libérez-les. C'est ce qu'a déclaré donc Mahmoud Abbas, qui a appelé également le Hamas à remettre ses armes à l'autorité palestinienne, à se transformer aussi en parti politique, une manière de replacer son entité gouvernementale au centre du jeu, et ce malgré les doutes de la communauté internationale. Cette initiative albane n'est pas nouvelle. Abbas avait déjà appelé le mouvement islamiste de se placer sous la tutelle de l'autorité palestinienne, sans succès, le Hamas reprochant à Abbas de collaborer avec Israël et de réprimer les voix dissidentes en Cisjordanie.
Merci Yelena Tomic. Et de leur côté, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ont appelé Israël à cesser le blocage intolérable de l'aide humanitaire à Gaza. Cela fait bientôt 2 mois que 2 400 000 Palestiniens en sont privés. En Italie, des dizaines de milliers de fidèles font la queue depuis ce matin pour pouvoir se recueillir devant la dépouille du pape François dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Ils peuvent le faire pendant 3 jours jusqu'à vendredi 17h, temps universel. Le cercueil sera fermé 1 heure plus tard. Avant ses funérailles prévues samedi matin, place Saint-Pierre, où plus de 200 000 personnes sont attendues, en plus des 170 délégations étrangères. Aux États-Unis, un nouveau procès pour le roi déchu du cinéma hollywoodien à l'origine de la déflagration mondiale MeToo. Harvey Weinstein est à nouveau jugé à New York pour viol et agression sexuelle après l'annulation pour vice de procédure de sa condamnation l'année dernière à 23 ans de prison. En un an, les procureurs sont allés chercher de nouveaux nouveaux témoignages accablants. Bonsoir Vincent Sorio.
Bonsoir.
Harvey Weinstein est donc arrivé tout à l'heure au tribunal pour faire une nouvelle fois face aux juges.
Oui, 5 hommes et 7 femmes, hein, des juges mais aussi un jury chargé de rejuger ce totem, l'homme par qui tout a commencé, Harvey Weinstein, comme le disaient les Américains, c'est le plus beau carnet d'adresses à l'époque du cinéma américain, le faiseur de rois d'Hollywood, qui vous mènera sur le chemin des Oscars, oui, mais à une condition, que vous couchiez avec lui. En 30 ans de carrière, Weinstein a fait miroiter le succès à des milliers de comédiennes qui se sont tues pendant des années avant que la parole se libère. Petit à petit, à partir de 2017, plus d'une centaine d'actrices, dont des stars mondiales comme Angelina Jolie, Kate Blanchett, Salma Hayek ou Léa Seydoux, ont fini par dénoncer ces crimes. Au mieux, des mains baladeuses, des propositions indécentes, au pire, des agressions sexuelles et des viols. Les victimes racontent comment Weinstein a forcé la porte de leur chambre d'hôtel, fellation forcée, pénétration contrainte, un véritable violeur en série en réalité, dont la ligne de défense, elle, n'a jamais bougé. Ses relations, dit-il, étaient consenties et la preuve, c'est que ces femmes ont continué de m'écrire pour me demander du travail. Un classique en résumé de la relation d'emprise que l'accusation, à partir d'aujourd'hui, va s'employer à réduire en miettes.
Merci Vincent Sorio. Il s'appelle NICAP et c'est un groupe de rap irlandais originaire de Belfast, donc en Irlande du Nord, connu dans le monde entier pour mêler humour, dérision et opinion politique. C'est d'ailleurs ça qui lui vaut ses problèmes aujourd'hui aux États-Unis, puisque sa performance au festival Coachella en Californie a suscité la controverse. Le groupe a affiché des messages anti-israéliens en dénonçant, je cite, un génocide en Palestine. Et depuis, Clémence Pénard, les appels à la révocation des visas des membres du trio se multiplient.
C'est notamment le cas de Sharon Osbourne, ex-jurée de l'émission X-Factor d'origine irlandaise, qui a appelé à l'annulation des visas du groupe, accusant même Coachella d'avoir servi de caisse de résonance à un discours de haine. L'affaire a vite pris de l'ampleur, relayée par Fox News, où une commentatrice a osé comparer la scène à de la propagande nazie.
Voir sur scène un large panneau « Fuck Israël », c'est irréel. Cela ne s'est même pas produit dans l'Allemagne nazie des années 30. Et là, on est en 2025 aux États-Unis.
Lors de leur show, NICAP a effectivement projeté un message qu'on pourrait traduire par Abba Israël, libérez la Palestine. Slogan coupé du direct diffusé en ligne par le festival, mais le groupe a rapidement publié sur X des vidéos non censurées de leur performance, relançant la polémique.
Les Irlandais, il n'y a pas si longtemps, ont été persécutés par les Britanniques, mais jamais on ne nous a bombardés du ciel sans aucun endroit où fuir. Les Palestiniens, eux, n'ont nulle part où aller. C'est leur foutu chez eux. Si ce n'est pas un génocide, alors qu'est-ce que c'est, bordel ?
Des vidéos massivement partagé sur les réseaux avec le hashtag Free Palestine, liberté pour la Palestine. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
J.D. Vance, le vice-président américain, hausse le ton. Il prévient l'Ukraine et la Russie doivent s'entendre sur un accord et propose des échanges de territoires entre les deux pays. Sinon, les États-Unis se retireront. Une déclaration qui intervient alors qu'Américains, Européens et Ukrainiens sont réunis à Londres pour de nouvelles discussions techniques. Car les pourparlers, les négociations entre ministres des Affaires étrangères ont été reportées. En France, la fille de François Bayrou, le premier ministre français, brise l'omerta. Elle a subi des violences lorsqu'elle était scolarisée à Notre-Dame de Bétarame, un établissement privé catholique visé par des dizaines d'accusations de violences physiques et psychologiques de la part d'anciens élèves. Hélène Perlan rompt donc le silence 39 ans après les faits dans un livre à paraître demain. Elle assure n'en avoir parlé à personne, pas même à ses parents. Bouleversé, François Bayrou a donc réagi aujourd'hui.
En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi c'est presque insupportable.
Votre fille, vous en avez jamais parlé ?
Non, pourtant je parle très souvent avec elle, mais comme vous savez, tous les parents sont comme ça. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux, chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aînée de... Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça.
François Bayrou, le Premier ministre français au micro de Victorien Villaume. Il, le Premier ministre, qui était en déplacement dans un établissement pénitentiaire alors que 65 agressions et attaques contre des prisons et des surveillants ont été recensées en 10 jours. Il est 19h09 à Paris, 2h de moins en temps universel. Tout de suite, Accent d'Europe.